Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
Oh, that music to my ears.
On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader.
Oh, yes, yes.
Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
Well, that's excellent.
Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
You know what, I like that idea.
Ce podcast est rendu possible par Stellar, un collectif de top CPO qui ont participé au succès de startups comme Zenly, Sunday, Spendesk ou Blablacar.
I'm so happy.
J'ai cofondé ce collectif avec une mission, aider les dirigeants d'entreprises tech à créer les produits qui dominent leurs industries.
Oh, yes, yes.
Retard sur la roadmap, équipe désalignée, produits lents à décoller, ces problèmes, nos CPO les connaissent par cœur. Et ils débarquent à tes côtés pour les résoudre dans des formats rapides, actionnables et clés en main.
Well, that's excellent.
Si tu es dirigeant ou CPO et que tu écoutes ce podcast, c'est qu'on a très certainement des choses à se dire. On se retrouve sur wearestellar.io ou via le lien en description d'épisode.
Oh, yes, yes.
Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Georget sur Clé de voûte. Développeur autodidacte depuis l'âge de 13 ans, il passe sa jeunesse à créer des produits et décide en 2014 de lancer un nouveau projet avec ses potes qui s'appellera Strapi. 9 ans plus tard, Strapi a levé 46 millions d'euros et rassemble 90 personnes organisées en full remote dans 17 pays. Aurélien vient sur Clé de voûte nous parler de la jeunesse de cette boîte comme on en croise peu sur l'écosystème français. Il nous explique en deuxième partie d'épisode comment créer une organisation product en full remote avant de creuser la construction d'un produit open source étape après étape. Je ne t'en dis pas plus et te laisse tranquillement démarrer l'épisode. Bonne écoute. Strapi a une spécificité, c'est que vous avez monté la boîte en total télétravail ou full remote pour les gens qui préféraient l'anglais. Alors moi j'aime mieux l'anglais parce que c'est plus simple à dire, mais voilà, j'ai fait la traduction, je pense que c'est la seule fois que je la ferai sur l'épisode. Et moi j'ai toujours été hyper intéressé par ces sujets, en particulier sur les sujets de product, parce que j'entends plein de boîtes que je croise dans mes échanges me dire que être PM en remote, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est pas un truc qui se fait vraiment. C'est un métier physique où il faut être là, il faut sentir ce qui se passe. Et donc, je pense que ce serait vachement intéressant qu'on creuse un peu ce sujet.
Mm-hmm.
Toi, pour commencer, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu monter cette boîte en full remote?
Bah, ça vient, je pense, de nous trois, les trois cofondateurs. On aime beaucoup notre liberté. On adore bosser ensemble, mais en même temps, voilà, je pense à Pierre qui a vécu, qui est le CEO, qui a vécu quelques années à Paris, mais qui aujourd'hui s'éclate dans le sud de la France ailleurs à faire de la planche à voile tous les midis. Voilà, il y avait ce besoin-là. Et puis, ouais, on adore se dire on va partir une semaine à la montagne, moi je vais rentrer à la maison en Bretagne. Voilà, je pense qu'il y avait cette envie-là de beaucoup de flexibilité. Et maintenant, on a un peu poussé à l'extrême parce qu'on avait cet enjeu de. On avait une vraie envie d'avoir beaucoup de diversité dans l'entreprise. Et c'est compliqué quand on reste à un seul endroit et qu'on chasse des personnes à un seul endroit. Donc, s'ouvrir sur le monde au niveau culturel, c'était ultra, et c'est toujours ultra intéressant. Et puis, ça a amené énormément de choses au produit. Sur la gestion des couleurs, sur la gestion des. Même nous, ça nous a ouvert sur des problématiques. Par exemple, en France, là, je déborde en dehors du produit, mais une problématique de mutuelle, les problématiques d'assurance, d'organiser un séminaire. Quand vous avez des personnes qui se trouvent comme nous au Nigeria, en Zambie, c'est une autre organisation. Et c'est des choses qui n'existent pas là-bas. Et il faut compenser. Donc, voilà, ça avait cette envie, je pense, de se prendre une claque de waouh, on a quand même beaucoup de chance dans ce pays. Et du coup, essayons de construire une boîte qui essaye d'amener le même niveau de qualité de vie en tant que salarié à tous les niveaux et dans tous les pays du monde.
Donc c'est une volonté personnelle des fondateurs de la boîte de faire ça. C'est pas du tout pour des sujets d'orga, de business, d'autres choses. C'est vraiment personnel de base, c'est votre ADN et vous avez dit on va le faire comme ça, on va le garder comme ça et on va grossir la boîte comme ça. Quoi.
Ouais. Ouais. Puis on a été par étapes. C'est-à-dire qu'on a commencé en physique comme une boîte classique, puis on a ajouté de la flexibilité sur quel jour on peut venir au bureau. Nous, le Covid, comme beaucoup de boîtes, a accéléré et nous, ça nous a dit déterminé sur le fait ok, maintenant on est 100% remote et c'est marrant qu'on fasse l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on vient de rendre les clés et je viens de faire l'état des lieux de sortie de nos bureaux et on n'a plus du tout de bureau chez Strapi.
Vous aviez un petit bureau avant quand même?
Ouais, on avait 100-150 mètres carrés à Paris et puis ce qui était significatif, c'est qu'il y avait 3 personnes par semaine qui venaient dans ces bureaux. Donc,
sur
90 et on vient de rendre les clés aujourd'hui, donc Strapi n'a absolument plus aucun bureau.
Trop bien. Je te propose qu'on creuse un petit peu ce sujet ensemble et que tu nous racontes un peu étape après étape comment tu montes une orga full remote. Alors, ça va être évidemment lié au PM, mais globalement, on inclut tout le monde dedans. Tu peux nous faire un petit état des lieux? Donc aujourd'hui, c'est 90 personnes. Il y a combien de personnes à la tech, au product et sur les autres départements?
Au produit, je l'ai pas de tête, mais on a 7 PM, il y a 2 Head of Product, et on a 4 Technical Writers, parce que la documentation fait partie du produit. Ça pourrait être un super sujet de podcast, d'ailleurs. Voilà, on est un peu répartis. L'équipe produit, il y a des personnes en France, il y a des personnes au Nigeria, en Allemagne, au Brésil. Parfois, il y a même des personnes au Portugal. Enfin bref, on est ultra dispersés. Donc, on doit être à peu près une quinzaine avec les product designers, si je les inclus. Et la tech, ils sont pas loin d'être 40, là, 35-40.
OK, donc ça commence à être des équipes sympas quand même. Ouais. Y a de quoi faire. Au niveau interaction, ça peut vite être compliqué. Si une boîte réfléchissait actuellement à faire pareil, c'est-à-dire à construire une équipe en full remote, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ce serait quoi les peut-être 3-4 étapes que tu ferais, que tu mettrais en place?
Bah, il y a deux types de remote. Il y a le remote uniquement en France et il y a le remote où on s'ouvre à d'autres pays. Donc déjà, une chose nous qu'on a imposé, même quand on était en France, c'était l'anglais. Ça paraît évident aujourd'hui, mais il y a encore des boîtes où je vois que le font en français. Si on veut vraiment s'ouvrir au remote et à l'international, l'anglais, c'est évidemment une obligation et c'est impossible autrement. Ça passe par équiper l'ensemble des personnes, mais un équipement, on a été, je pense, au top là-dessus, mais c'est pas prendre, c'est des casques Bose, c'est tout le monde a quasiment un micro Yeti ou équivalent. Le son en remote, c'est ultra important. On est vraiment embêtant sur la qualité des connexions Internet dans l'espace de coworking, n'importe où. Une personne qui tente de travailler dans un restaurant, il y a du bruit autour, elle aura une remarque forcément. Alors je sais que ça peut paraître chiant, mais en fait c'est pour les personnes en face. On le sait, hein, quand tu es dans un appel, un meeting avec une personne qui a un bruit horrible autour de soi, c'est déjà la personne n'a pas envie de participer, donc elle va pas dire tout ce qu'elle souhaite. Et pour les autres personnes, en fait, c'est pas agréable. Donc en fait, ça passe déjà beaucoup par le setup et s'assurer que tout le monde a un bon setup.
Pour reproduire en fait la fluidité d'une interaction quasi physique, c'est exactement. Vrai qu'avec le micro, bah là, on est, c'est un peu ce qu'on est en train de voir. On a des micros et un matos qui est super là en studio. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est hyper agréable et on rentre directement dedans dès qu'on a du bon matos quand même. Mm-hmm. On écoute vachement plus facilement la voix alors que tu fais ça avec, je sais pas, des écouteurs sans fil, peu importe les marques, des fois ça laisse un peu à désirer quoi.
Ouais. Et la troisième étape, c'est évidemment classique, mais tout digitalisé, c'est-à-dire qu'il y a rien de physique et même beaucoup d'asynchrone. Et là, on n'a pas encore taclé totalement le challenge du full remote sur l'aspect produit. Je le vois, les DSM, notamment en async, ça a ses limites.
C'est quoi les DSM?
Les DSM, les Daily Stand-Up Meeting, ouais. Tous les matins avec les équipes de designers et on peut avoir des technical writers, nous, enfin voilà, toutes les personnes, les PM, les PO, les EM, tout le monde est là. Ah, ça a ses limites hein, de pas se voir. Donc, voilà, on a essayé tout en async, c'est-à-dire une grosse culture de l'écrit, donc ça j'en reviendrai dessus, la culture de l'écrit. Mais l'agilité, c'est quand même beaucoup basé, et je pense le product playbook qu'on suit tous et tous les principes Scrum qu'on applique, c'est beaucoup de synchrone, c'est beaucoup sur des effets visuels à la base avec des post-it. Alors on peut essayer tout ce qu'on veut, je pense qu'on n'arrivera jamais à reproduire exactement l'ambiance qu'on peut travailler les uns à côté des autres avec un tableau juste à côté. Mais nous voilà, on a essayé de tout faire en asynchrone, ça marche pas. Je dirais pas n'essayez pas, mais on a perdu beaucoup de temps à tout rendre en asynchrone. Non, on fait quand même beaucoup de meetings, donc en fait on est obligé de ramener cette culture du meeting synchrone pour se voir et se dire les choses. Et voilà, quand tout le monde a un bon setup, on peut recréer quelque chose d'assez intelligent.
Comment tu fais pour être synchrone avec des gens qui sont partout dans le monde? Est-ce que vous limitez le nombre de fuseaux horaires, par exemple, pour vos recrutements?
C'est la façon dont on construit les squads, en fait, qui va être... ça, je ne l'ai pas précisé. Du coup, Strapi, on a 5 ou 6 squads. C'est, voilà, les squads, on évite qu'il y ait plus de 4 à 6 heures max de time zone différence entre toutes les personnes qui composent la squad. Ça, c'est un point ultra important. Parce que il y a des squads qui font leur DSM donc le matin à 9h30 ou 10h, ou il y en a qui vont l'avoir à 14 ou 15h, ça va dépendre. Des fois on a des personnes au Canada, donc en fait 15h pour les personnes au Canada c'est 9h du matin. Donc voilà, on adapte, mais on fait ces meetings, on fait des meetings quoi.
Donc t'as des squads par nationalité ou par fuseau quasiment en fait?
Des squads par fuseau, ouais. Et après, on a tout plein de règles, et là-dessus, on a été très loin. On peut sortir de sa time zone de la squad pendant 3 semaines maximum. Par exemple, on a beaucoup de personnes qui ont des origines aux États-Unis ou, je pense, en Bolivie, etc., donc qui y retournent. Donc, elles peuvent continuer à travailler depuis là-bas, mais c'est maximum 3 semaines parce qu'en fait, ça quand même dérange la squad. On doit changer tous ces meetings-là, donc c'est toute une routine qui est cassée. Et du coup, le quatrième point, et je l'ai mis en dernier parce que ça reste pour moi le plus important, c'est tout écrire. Quand on parle de culture de l'écrit, c'est... chez Strapi, il n'y a pas un meeting où on arrive, il n'y a pas une note de créer, toutes les notes sont publiques. C'est-à-dire tout le monde peut accéder aux notes de tout, de tout le monde. Ça inclut même des notes du leadership. À tous les niveaux, on est en quasi totale transparence. C'est pas vrai parce qu'il y a des limites légales à la transparence, mais on essaye. Et tous les meetings sont préparés, toutes les questions sont en avance, tous les meetings sont record, tous les meetings, il y a un transcript. Donc, c'est-à-dire que voilà, on peut. Nous, on est à fond sur des technologies comme Loom, on fait énormément de vocaux. Et on gagne un temps ultra précieux. Moi, j'ai travaillé pendant 4 mois au Cambodge pour justement tester une nouvelle time zone et tenter de l'ouvrir. Super dur. Le Cambodge, il y a 5 heures de différence. Et du coup, avec des personnes aux États-Unis, en fait, le seul moyen de se parler, bah, c'était aux États-Unis, t'es 18 heures le mardi. Et pendant que moi, il était 8 heures du matin, mais le mercredi. Et du coup, c'est des problématiques assez ouf, mais ça marche. Par contre, faut pas oublier qu'une boîte en remote, c'est quand même une boîte plus lente. Mmh. Le decision process est plus long.
Pour toi, c'est plus long, ouais.
Ouais. Ouais, faut l'accepter. Là où avant, je nous revois au tout début, quand on était peu et tous dans le même bureau, à un moment, il y en a un qui peut se lever ou une qui se lève et qui amène un problème dans l'open space et tout le monde tend l'oreille et tout le monde peut apporter son avis et puis on décide dans la foulée, quoi. Et ça peut prendre 20 minutes. Là, faut écrire une note, faut la préparer, faut donner tout le contexte. Ensuite, faut le poster, je passe sur son outil, sur Slack ou sur... ça dépend les outils que vous allez utiliser ou Teams, etc. Et il faut attendre des réponses. Et ce process-là est largement plus long. Donc voilà, faut accepter cette lenteur-là, mais en même temps, c'est une productivité gagnée à d'autres endroits.
Et est-ce que la vitesse, la diminution de la vitesse dont tu parles par rapport à une boîte qui interagit, collabore en physique, elle n'est pas due au process que vous mettez en place justement? Puisqu'en fait, vous avez quand même cadré tous les process, qu'il faut que tout soit à l'écrit. Ça prend du temps d'écrire. Mm-hmm. C'est beaucoup moins spontané que si vous voyez directement à l'oral. Est-ce que ce n'est pas dû à ça, à ces process-là justement, que la boîte est plus lente? Ou est-ce que tu penses qu'en fait, c'est toutes les boîtes full remote sont plus lentes que les boîtes en physique?
Bah, une boîte, je sais pas, une bonne question. Là, j'ai pas la réponse. J'ai du mal à imaginer une boîte full remote sans une grosse culture de l'écrit, donc où il faut cadrer forcément ce qu'on a à dire. L'avantage de l'écrit, c'est que ça nous force à poser les mots. Ça évite aussi pour parfois de s'emporter. L'avantage de l'écrit, c'est qu'on peut revenir dessus, c'est qu'on peut se corriger, c'est qu'on peut écrire un brouillon et puis finalement le poster le lendemain. Peut-être plus apaisé ou d'avoir dormi une nuit dessus. Donc, il y a plein d'avantages à l'écrit. Mais oui, certainement que les process nous ralentissent. Mais en même temps, ces process-là, si on les a pas, c'est la foire.
À quel rythme vous menez vos meetings, par exemple dans l'équipe produit, reprenons l'équipe produit pour le coup. Ouais. À quel rythme vous faites des meetings entre PM, product designer et reste de l'équipe?
On va avoir les PM, on va avoir un product management weekly. Donc, c'est-à-dire toutes les semaines, avec tous les PM, on se voit. Toutes les deux semaines, on va ajouter un meeting qui s'appelle la product vision. On va parler uniquement de vision, stratégie, produit. On va avoir un meeting tous les mois sur là où on va synchroniser beaucoup avec les autres équipes, les sales, le marketing, le customer support, etc. Avec la partie engineering, ça va être toutes les deux semaines également. Donc voilà, c'est plutôt des cadences très précises. Puis évidemment, après, on a les cycles Scrum, où quasiment l'entièreté des squads sont des cycles de deux semaines. Donc on a le DSM tous les jours, on va avoir nos sprint planning toutes les deux semaines. Les backlog reviews, ça va dépendre des squads et des moments, soit c'est toutes les semaines, soit c'est toutes les deux semaines. Voilà, chaque squad, nous, a beaucoup d'indépendance. Mais ouais, c'est une cadence que, bah, du coup, j'ai mis en place avec les deux head of product. Il faut énormément de rigueur. Le télétravail, le remote, à notre échelle, c'est full que de la rigueur, que du process, sinon ça ne tient pas.
Et sur vos recrutements, pour recruter des PM que tu penses être capable de tenir sur la longueur ce rythme et cette organisation, est-ce qu'il y a des trucs en particulier que tu as introduit dans tes process de recrutement?
Oui, et maintenant, on arrive à détecter des PM qui ne sont pas prêts au full remote. Comment résumer ça? Alors déjà, nous, on a piqué l'idée de Mythic, c'est de faire un jeu de rôle pendant le process de recrutement. Donc déjà, on va évidemment, dans les premiers entretiens, poser des questions classiques sur leur vision du project management, etc., et s'assurer qu'on n'est pas sur de la gestion de projet. Mais après, on fait tout un système de jeu de rôle avec une problématique où moi, je vais très souvent être le client, je vais avoir un ingénieur qui est avec moi, qui va bosser, et le PM en face, lui, va devoir résoudre le problème et trouver une solution avec le dev. Bon, du coup, ça nous permet déjà de voir comment ils interagissent. Et puis en fait, là, on est dans un contexte remote. On ne fait jamais d'entretien physique. Déjà, on va voir son setup. Ça va être intéressant. On va voir comment cette personne va parler. On va évidemment faire tous les meetings en anglais qui vont être ultra importants. Et après, moi, on va leur poser des questions plutôt précises. C'est est-ce que tu as déjà travaillé en télétravail? Oui, combien de jours par semaine? Si c'est 3 ou 4, ah, ok, et 5 jours, tu as déjà essayé de faire 5 jours complets et pendant combien de temps? Et est-ce que tu as un bon setup chez toi? Ça ressemble à quoi ton bureau? Et est-ce que tu es déjà allé dans des espaces de coworking? Est-ce que tu y vas de temps en temps? Moi, des réponses toutes bonnes vont me donner des indications. Je vois, c'est un pattern. Non, c'est évidemment pas une généralité. Il faut pas en faire une généralité. Mais une personne seule entre 20 et 30 ans, on va dire sans animal de compagnie, célibataire, etc., moi, j'ai mis un gros red flag sur risque de burn-out ou risque de dépression parce que va falloir voir du monde. Le côté social, s'isoler, à part si c'est vraiment, on sent que c'est un caractère. vraiment d'une personne qui aime la solitude. Nous, on en a vu beaucoup, des personnes dans la boîte qui pensaient que le full remote, c'était pour eux, et finalement, pas du tout. Le moyen, c'était d'aller dans l'espace de coworking, ça change tout, de voir du monde, de sortir. Finalement, ce temps de commute entre les deux, de séparer, c'est important. Étonnamment, dans le setup, je parlais du bureau tout à l'heure, avoir une pièce dédiée au télétravail, super important. Si c'est pas possible, pareil, ça va être compliqué. Pareil dans les entretiens, un entretien dans un canapé, moi ça va être pas un red flag, mais on y est quasiment. Et c'est tout un ensemble de petites règles comme ça où, attention, là cette personne je pense qu'elle n'est pas prête. Et après on va leur faire, nous dans notre process d'interview, on a le dernier step, il y en a 7, ici évidemment je coupe, mais le dernier step, ce qu'on appelle la values interview, et on va poser des questions sur la transparence, sur la culture de l'écrit et sur le télétravail. Et en fait c'est une interview d'une heure où en fait la personne, pendant une heure, elle va nous dire elle comment elle voit les choses, et on va essayer de pas la biaiser. Et nous, on va voir si ça correspond exactement à ce qu'on attend. Et là, généralement, ça nous permet... Il y a peu de personnes qui la passent pas, mais quand même encore 10% où on sent que ça va pas le faire. Parce que c'est pas aligné avec nos valeurs, mais aussi parce que le télétravail est quasi une valeur, quoi. Donc, désolé pour la réponse pas forcément très précise, mais c'est très compliqué. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a plus développé un huitième sens pour identifier les personnes qui sont pas forcément faites pour le télétravail.
Est-ce que, d'un point de vue process ou outil, il y a des choses particulières des trucs en particulier à savoir dans une boîte comme la tienne, qui est faite en full remote par rapport à une boîte qui évolue en physique traditionnellement?
On a des outils, je pense, classiques. Nous, notre Notion, c'est le Coran, c'est la Bible, il y a tout dedans. C'est vraiment...
C'est là-dessus que vous écrivez tout ce que tu disais.
Tout est centralisé là. Après, on a des outils classiques, Miro, Jira, Slack. L'outil qu'on utilise à fond, c'est les vocaux dans Slack, ultra important.
Comment tu fais pour noter justement le contenu des vocaux? Alors je sais que maintenant Slack fait une retranscription, en français elle n'est pas bonne du tout, peut-être qu'en anglais ça marche mieux, mais nous on fait un petit peu ça aussi dans l'équipe, et la retranscription c'est quand même pas mal de l'avoir, parce que des fois tu fais un contrôle F pour chercher dans Slack, et si c'est un vocal tu ne trouves pas.
C'est là que l'anglais te sauve la vie, si tu as une langue tout en anglais, du coup ça marche tout le temps en anglais Slack.
Ça marche bien alors.
Ça aide, et puis on va avoir des outils comme TLDV, qui est un outil un peu comme des outils comme Gong, qui vont record tous les calls sales ou CS, ou même des calls produits ou des interviews utilisateurs, qui vont nous ramener du transcript, on va pouvoir mettre des moments, ça c'est important, partager le feedback à telle équipe. Loom qui est très connu, mais nous on l'utilise à un niveau, moi je pense que je sais pas sur Loom, je pense dans les plus gros utilisateurs quoi. J'adore partager des vocaux, mais en même temps mettre notre tête, ramener de l'humanité, parce qu'on a vite fait d'enlever ce truc là quoi. De plus voir, donc on laisse nos petites têtes tout le temps et on essaye d'allumer les caméras, ça c'est un truc pareil. Une boîte en full remote, ne pas allumer la caméra, c'est compréhensible. Nous, il y a plein de moments, évidemment, on est ultra bienveillant, on peut être malade, on peut être pas dans un bon jour, on peut avoir un background qui ne permet pas d'allumer sa caméra, mais on essaye, on encourage quand même en permanence de l'allumer, parce que sinon on se voit pas. On se voit une fois par an au séminaire.
Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez testés qui étaient un peu innovants par rapport à une orga tradie qui n'ont pas forcément fonctionné? T'as des idées en tête un peu quand je te dis ça?
On a testé des choses. Notamment quand on a eu cette culture un peu hybride, comme je te disais, on a été par étapes vers du bureau, vers flexibilité et full remote. L'hybride, c'est une erreur. On y a cru, ça ne marche pas. Où il faut des règles ultra strictes qu'on a tenté de faire, c'est-à-dire qu'avoir des personnes en télétravail, en remote, et ensuite dans une salle, il y a 10 personnes ou 5 personnes qui, elles, sont autour d'un micro ou d'un ordi. Non, ça, c'est pas possible. Donc nous, on forçait à tout le monde, vous êtes dans la même salle, mais vous mettez 5 PC, 5 casques, 5 micros, et vous vous mutez entre vous pour que la personne parle. Mais en fait, ça permet de rendre le call agréable de l'autre côté. Et là, pareil, c'est qu'en fait, si on s'est limité aux interactions. Donc ça, c'est des choses importantes. Ouais, quand on ne préparait pas nos meetings, pas d'agenda, ça ne marche jamais. Je t'ai dit, le full asynchrone sur les principes agiles, ça ne marche pas. Il faut ramener de la synchro, sinon ça ne prend pas. Après, il y a des comportements qui sont durs à admettre, mais quand on n'est pas utile dans un meeting, le quitter. C'est plus dur à faire en physique, c'est facile à faire en remote, et il ne faut pas hésiter. Quoi. Si on ne se sent pas utile, un message, je suis inutile ici, je regarde le record, hop, et je quitte le meeting.
Ouais, c'est intéressant. Ce n'est pas un truc qui vous gêne, que vous prenez comme...
C'est pas encore une habitude, je le dis là, mais... ça peut arriver qu'on le fasse, mais j'aimerais qu'on le fasse plus souvent. C'est pas quelque chose qui est assez régulier, alors qu'en fait, ça devrait pas être mal vu. Tout est enregistré, on perdra pas l'info. Un autre point qui était intéressant, c'est dans la phase de recrutement, c'est laisser les nouveaux recruter les nouveaux. Nous, on était tout le temps, voilà, t'as fini ton onboarding chez Strapi, ça dure un mois. Maintenant, t'es bon, t'es prêt à recruter. Je pense que c'est une erreur, surtout sur le télétravail. En fait, on ne sait pas si ces personnes sont prêtes au 100% remote et les laisser recruter d'autres personnes. Et on ne sait pas si ces nouvelles personnes, elles, sont aussi prêtes 100% remote, c'est une bêtise. On est un peu revenu dessus. C'est même pas tant une organisation remote, mais les nouveaux ont tendance à être un peu trop tendres. Parce que voilà, ils sont encore potentiellement en période d'essai, etc. Donc ça, c'était une erreur, mais sur le remote, je pense que ça nous aurait permis d'identifier des personnes qui n'étaient pas prêtes. Parce que quand c'est une personne pas prête qui identifie une personne pas prête, ça ne marche pas.
Trop bien, Aurélien, merci beaucoup pour tout ce sujet, pour tous tes points de vue sur le sujet de l'organe en full remote. J'aurais une dernière question à te poser pour résumer tout ça. Est-ce que tu pourrais me donner les 3-4 points que tu conseillerais à toute organisation qui souhaiterait, pourquoi pas, mettre en place cette culture de full télétravail comme toi?
Ouais, et bien comme je te disais, le premier point, je dirais, c'est le bon setup. Ne vraiment pas hésiter à investir et ne pas lâcher d'un point de vue rigueur. Sur ces points-là, c'est super important et chaque petit détail, il faut mettre un standard très haut dès le début et puis après ça va rouler, tout le monde va... Les personnes vont se copier entre elles. La culture de l'écrit, pour moi, c'est un des points les plus importants, être prêt à écrire, être prêt à détailler. Ça a plein d'avantages, on l'a dit, je pense que ça peut nous ralentir parfois, mais au moins, on a des traces de tout. L'asynchrone, pareil, à fond, mais pas totalement. Sur les problématiques produits et les rituels, on a essayé, nous, on n'a pas réussi. Donc, on a des meetings et il faut éviter, il faut faire attention. Donc, d'ailleurs, un point que je n'avais pas mentionné tout à l'heure, on a des demi-journées sans meeting, on s'interdit de faire des meetings, sinon on s'en sort pas. Et enfin, le recrutement, bien s'assurer que les personnes sont prêtes au télétravail. Je vous ai donné des petits conseils tout à l'heure. Après, on a des 90 days training plan où on fait vraiment attention aux 3 premiers mois des PM, s'assurer qu'ils sont bien onboardés, qu'ils comprennent le produit, qu'ils aussi comprennent la culture remote, la culture de l'écrit. Et puis voilà, s'assurer du setup pendant les entretiens, s'assurer de tous les petits points que je vous ai mentionnés tout à l'heure, c'est ultra important. Du coup, voilà.
Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.
I have everything here.
Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
Oh, yes, yes.
Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
Darling, this trip's an inspiration.
N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io.
Well, that's excellent.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.
I'm so happy.